Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et se reposeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers frères, ces paroles du divin Maître nous enseignent un mystère bien important à connaître. Le jugement profond par lequel les gentils, c'est-à-dire les païens, ont été substitués au peuple choisi de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous présente deux miracles, la guérison d'un lépreux et celle du serviteur du centurion. Suite à cette dernière guérison, le centurion fait preuve de sentiments remarquables. « Seigneur, dit-il à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne mérite pas que vous entriez sous mon toit. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Jésus, entendant cela, fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. Aussi, je vous l'assure. » Conclusion. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et se reposeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Ce discours du Sauveur exprime clairement l'aveuglement du peuple juif et la vocation des gentils. Mystère annoncé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et figuré tout spécialement par la bénédiction accordée à Jacob au détriment d'Ésaü, son fils aîné, qui aurait dû hériter de la promesse d'être l'ancêtre du Messie, mais ce n'a pas été lui. Du reste, ce jugement de Dieu, ce jugement si profond, si étonnant, doit nous remplir de crainte et de stupeur, comme le fut Isaac lorsqu'Ésaü vint réclamer la bénédiction paternelle. Cette dernière, en effet, avait d'abord été donnée à Jacob, qui s'était fait passer pour Ésaü, son frère aîné, profitant de la cécité d'Isaac, leur père. Isaac fut plongé, dit l'Écriture, dans une stupeur violente. Et il s'écria dans l'excès de son étonnement, « Quel était donc celui qui m'a apporté de la venaison, de la chasse, et auquel j'ai donné irrévocablement ma bénédiction ?» Trop tard. Cette méprise prophétique paraissait bien singulière au saint patriarche. Mais que penser de la transmission de l'héritage céleste du peuple juif, c'est-à-dire du peuple choisi, du peuple héritier de la promesse, aux gentils, qui n'étaient autres que ceux qui adoraient alors les idoles les plus extravagantes et les plus répugnantes, comme cela se voit aujourd'hui, par exemple, en Inde. Les chrétiens sortis du judaïsme, les juifs convertis à notre Seigneur, furent surpris lorsqu'ils virent la grâce du Saint-Esprit se répandre sur les nations, c'est-à-dire sur les païens, et que les étrangers devinrent les égaux des enfants et des préférés de Dieu. Mais qu'eussent-ils ressenti s'ils avaient compris que ceux-ci leur étaient maintenant préférés? Les premiers choisis, les seconds repoussés, le royaume de Dieu enlevé aux uns pour être transféré aux autres. Grand mystère. D'ailleurs, comment à ce spectacle ne pas s'étonner avec l'apôtre saint Paul ? Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies inaccessibles. Qui donc a connu la pensée du Seigneur? Qui a pris part à ses conseils? Ce sont des questions que se pose saint Paul. Cette vérité a été préfigurée dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Si nous lisons attentivement, nous trouvons d'autres figures dans l'histoire juive de ce grand mystère. Tout d'abord, la traversée à pied du lit du Jourdain par les enfants d'Israël pour leur entrer dans la terre promise. Dieu ordonna à Josué de placer sur la rive 12 pierres tirées du lit du fleuve, qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, donc le peuple juif tout entier dans son intégralité. Puis ensuite, après ces 12 pierres, de mettre au milieu du fleuve 12 autres pierres tirées de la rive, donc le contraire. D'abord des pierres tirées du fleuve pour les mettre sur la rive, puis de la rive dans le fleuve, ensuite en second. Ce double changement exprime celui dont nous nous occupons en ce moment, le passage de la promesse des Juifs aux Gentils. Telle est encore la signification de ces transmissions du droit d'aînesse que nous voyons dans l'Écriture. Le plus jeune préféré à l'aîné, Éphraïm à Manassé, Jacob à Ésaü, etc. Tout cela signifie la foule des gentils préférée au peuple juif. Il y a dans l'Écriture un texte encore plus fort, tiré du prophète Malachie, texte bien connu, je pense, pour vous. Le voici. « Je ne mets plus en vous ma complaisance et je ne recevrai pas d'offrande de votre main. » C'est Dieu qui parle aux Juifs. « Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations, c'est-à-dire parmi les gentils. Et en tout lieu, plus seulement à Jérusalem, au temple, non, en tout lieu. À mon nom, un sacrifice est offert sans tâche. » Prophétie du sacrifice de la messe et de la fin du culte mosaïque au temple de Jérusalem. Le Seigneur ne pouvait pas annoncer en termes plus clairs la réprobation des Juifs et l'élection des gentils, c'est-à-dire encore une fois des païens. Ce que nous venons de voir doit nous amener, comme saint Paul, à nous poser une question. Laquelle ? Quelle est la cause de ce changement prodigieux ? Pourquoi ? Pourquoi cette transmission ? Pourquoi ce fait ? Saint Paul se pose la question de cette façon. Comment se fait-il qu'Israël, en recherchant la justice, car ils l'ont recherchée, ne soit pas parvenu à la loi de la justice ? Ils ont cherché la justice, ils ne sont pas parvenus à la loi de la justice. Et que les gentils, qui ne recherchaient pas la justice, y sont parvenus. Mystère. Les uns la cherchaient et ne l'ont pas eue, les autres ne la cherchaient pas et l'ont eue. Grand mystère. C'est saint Paul qui parle. Saint Paul répond à la question qu'il vient de poser ainsi. Il donne la raison. Parce qu'Israël a recherché la justice non par la foi, mais par les œuvres. Et ici est le problème. Non par la foi, mais par les œuvres. Les Juifs croyaient obtenir la véritable justice et le salut éternel, non par un don de la grâce, mais par le mérite seul de leurs œuvres, de la circoncision, des sacrifices offerts au temple et des autres observances légales de la loi. On fait des œuvres extérieures, le cœur reste mauvais, et parce que les œuvres ont été faites, le salut est assuré. Faux. Si derrière les œuvres, le cœur n'est pas avec, ça ne vaut rien. Ils ont ainsi été privés de cette justice, comme ils s'attribuaient à eux-mêmes et à leurs œuvres toute espèce de mérite, et qu'ils ne laissaient rien à la grâce de Jésus-Christ. Ils ont été à bon droit abandonnés de la grâce, livrés à eux-mêmes et par suite exposés aux chutes les plus graves, notamment le déicide. La faute la plus grave qui soit jamais. Mettre à mort son propre Dieu, son propre Sauveur. Il n'y a rien de plus grave. Les gentils, autrement dit les nations païennes, au contraire, n'ayant pas en eux-mêmes de quoi entretenir des espérances pleines d'orgueil, instruits par leur propre dénuement, se sont réfugiés dans les bras de la grâce et faisant dépendre d'elle seule leur salut, ont obtenu de la sorte la véritable justice, c'est-à-dire leur sanctification et le salut de leur âme. Les Juifs se perdirent par leur présomption et leur orgueil. Ce qui sauva les gentils, au contraire, fut le mépris d'eux-mêmes, une vraie humilité de cœur et la confiance dans la puissance de la grâce. Il y a ici pour nous des leçons à tirer. Et si vous voulez bien, nous en tirerons deux. Tout d'abord, première leçon. L'orgueil est bien la source de tous les maux et de toutes les ruines. C'est à cause de l'orgueil que furent précipités du fait de leur gloire le peuple bien-aimé, aussi bien que le premier ange et que le premier homme. Aussi l'auteur de l'Ecclésiastique dit à raison, le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. Celui que possédera l'orgueil sera comblé de malédiction et ne tardera pas à être mis en poussière. Conformément à cette sentence de l'Écriture, Jean Cassien, et nous sommes là dans les premiers siècles du christianisme avec Jean Cassien, suivi en cela par les principaux pères du désert, ramène à l'orgueil le vice de l'impureté aussi bien que tous les autres vices. Et Saint Grégoire observe que Dieu punit quelquefois l'orgueil secret caché dans un cœur par les désordres les plus éclatants. La raison de la malice et de la triste fécondité d'un tel péché nous est donnée par ce même livre de l'Ecclésiastique. Le commencement de l'orgueil dans l'homme, c'est l'éloignement de Dieu, quand son cœur se retire de celui qui l'a fait. Ainsi, l'effet de l'orgueil est de nous éloigner de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle plus grand entre Dieu et nous. Se confier en soi-même. Une fois détourné de Dieu et résolu à ne nous appuyer que sur nous-mêmes, Dieu ne tarde pas à nous abandonner. Et de là des chutes non moins nombreuses que profondes dans les domaines de tous les vices. Ce qui a perdu Lucifer, ce qui a perdu Adam, ce qui a perdu le peuple choisi de Dieu est en train de nous perdre à notre tour. Nous, les anciens païens, sauvés par la miséricorde de Dieu, nous vivons aujourd'hui dans une apostasie générale de toutes ces nations païennes qui s'étaient tournées vers Dieu pour obtenir leur salut. Elles l'ont maintenant rejeté. C'est la grande apostasie. Dont les mots d'ordre de cette grande apostasie, ces mots d'ordre du reniement, sont lancés du haut de la chaire des évêques et du pape lui-même. Il n'y a qu'à penser à cette promotion de l'œcuménisme qui met toutes les religions sur le même pied. Le pape Léon a fait une vidéo au mois d'octobre, je crois, dernier, pour l'union de toutes les religions pour promouvoir la paix, une paix purement humaine, une paix sans notre Seigneur Jésus-Christ, sans notre Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, mis au même rang que Bouddha, Mohammed et de tous les créateurs des sectes les plus diverses et les plus abjectes, tant pour notre foi que pour notre raison. Les hommes d'Église, depuis le modernisme qui a triomphé à Vatican II, ont délaissé la vérité divine pour s'abandonner à leurs propres jugements erronés, tout emplis de songes purement humains, imbu d'un humanitarisme gangréné d'idées maçonniques. Mais ce qui vaut pour l'Église et les hommes d'Église vaut aussi pour chacun d'entre nous à notre petit niveau personnel. Car ces paroles qui nous révèlent la cause de la réprobation du peuple d'Israël nous enseignent aussi à éviter tout sentiment d'enflure et d'orgueil pour nous-mêmes. L'auteur de l'Ecclésiastique, toujours lui, est toujours aussi bon, nous donne dans ce sens ce conseil. Ne vous élevez point comme un taureau dans les pensées de votre cœur, de peur que votre folie ne brise votre force. Votre folie ne brise votre force. Ne consume vos feuilles, ne perde vos fruits, et que vous ne soyez abandonnés comme un arbre desséché dans le désert. Belle image, bien claire. Ne nous glorifions pas de notre élection en abusant de la grâce qui nous a été donnée, pour mépriser les autres et nous enorgueillir en nous-mêmes. Ne nous rendons pas indignes des faveurs dont nous sommes l'objet. J'ai la foi, je vais à la messe traditionnelle. Oui, mais ton cœur, où est-il? Est-il plein de cette pensée de Dieu? Est-il uni à notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la vraie question. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien d'aller à la messe traditionnelle. Mais si le cœur n'est pas avec Dieu, que cela vaut-il? C'est un point sur lequel l'apôtre insiste avec force dans son épître aux Romains. Citation. Longue citation, mais ô combien importante, de cet épître aux Romains. Que si quelques branches ont été brisées, il s'agit des Juifs, et si vous, qui n'étiez que sauvageons, les gentils, avez été greffés sur l'olivier dont vous recevez maintenant la sève, qui vous donne la vie, ne vous glorifiez pas contre les branches qui ont été brisés. Ce n'est pas vous qui portez la racine, c'est la racine qui vous porte. Attention, nous n'avons pas la sève par nous-mêmes. De même que les Juifs n'avaient pas la sève par eux-mêmes. Elle vient de la racine, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais direz-vous, c'est saint Paul qui continue, les branches ont été brisées pour que je fût greffé à leur place. Oui, elles ont été brisées à cause de leur infidélité. Si vous demeurez debout, c'est à cause de votre foi. N'ayez pas de vaines pensées. Craignez plutôt. Craignez plutôt. Saint Paul continue. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, croyez-vous qu'il vous épargnera? Question. Considérez la bonté et la sévérité de votre Dieu. Bonté et sévérité. Sa sévérité envers ceux qui sont tombés, sa bonté envers vous. Mais si vous ne persévérez pas dans le bien, vous aussi, vous serez retranchés du tronc. Fin de citation de saint Paul. Ces dernières paroles de saint Paul doivent résonner à nos oreilles comme la foudre, comme une prophétie lugubre dont malheureusement notre siècle nous offre l'accomplissement. Saint Bernard définit ainsi cette humilité dont notre cœur doit se remplir pour éviter cette malédiction. L'humilité, c'est Saint Bernard qui parle, est une vertu par laquelle l'homme, se connaissant parfaitement, connaissance de soi vraie, est vil à ses propres yeux. Se connaissant parfaitement est vil à ses propres yeux. L'humilité va nous ainsi nous porter à reconnaître et déplorer nos fautes passées, mes fautes à moi, à attribuer le bien que nous voyons en nous à la bonté de Dieu, à garder une opinion bien vile de nous-mêmes, ne nous attribuant que le néant et le péché qui ne sont que de nous. L'humilité aussi nous portera à mépriser les louanges, et dans un sens contraire, elle nous portera à désirer d'être méprisés, désirant nous soumettre facilement à toute autorité légitime, obéissance, considérant aussi avec indifférence les biens extérieurs et embrassant avec joie la pauvreté. Voilà ce à quoi pousse l'humilité. Elle nous fera prendre aussi conscience de notre néant, et éprouver une grande gratitude pour Dieu et pour tout ce que nous recevons de lui, ainsi que pour le prochain et pour tous les bienfaits que nous recevons du prochain. L'humilité mettra dans notre bouche ce mot que l'on rencontre si rarement, merci. C'était la première leçon. Évitez tout orgueil à n'importe quel prix. Seconde leçon. Les Juifs se sont perdus car ils ont préféré leurs œuvres à Dieu même. Nous éviterons donc de suivre un écueil semblable. Notre vie chrétienne repose avant tout sur la présence de notre Seigneur Jésus-Christ en nous par la grâce. Présence qui est une activité vitale, une vie réelle. Une vie bien supérieure à celle reçue de nos parents. Cette vie de la grâce en nous. Par cette vie, notre Seigneur nous communique son propre esprit, qui est un principe d'activité supérieure qui nous porte à penser, à juger, à aimer, à vouloir, à souffrir, à travailler. Avec lui, par lui, en lui, comme lui. Une vie d'union de plus en plus profonde, de plus en plus continuelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vie est l'activité d'une âme qui réagit pour régler et corriger ses tendances naturelles, ses défauts. Il y a un réglage à faire en nous. Qui s'efforce d'acquérir l'habitude de juger et de se diriger en tout, sans exception. D'après les lumières de l'Évangile et d'après les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vie intérieure, inséparable d'une pratique authentique de l'humilité, encore une fois, sans laquelle toute pratique extérieure est vaine, presque inutile et sans fruit, est un trésor qu'il nous faut protéger, enrichir, nourrir quotidiennement. D'où la nécessité de lecture religieuse. Nous vivons, encore une fois, dans un monde qui nous donne les exemples de tout ce qu'il ne faut pas faire. Un monde sans Dieu, où l'on ne parle jamais de Dieu. Il est important pour nous de ramer à contre-courant, de lire la vie des saints, la Sainte Écriture, les ouvrages spirituels. Don de Montléon explique que notre esprit est comme un moulin. Vous prenez du blé, vous aurez de la farine de blé, de l'avoine, vous aurez de la farine d'avoine, du seigle, de la farine de seigle. Bonne lecture, bonne instruction, bonne pensée. Et ces bonnes pensées pourront, avec la grâce de Dieu, produire de bonnes actions. Mauvaise lecture, mauvaise vidéo, mauvaise discussion, mauvaise compagnie, produiront de mauvaises pensées qui nous pousseront à faire de mauvaises actions. L'important de nourrir correctement ce moulin de notre esprit, de lui donner à moudre de bonnes pensées, de bonnes lectures. Lecture très importante. Pour nourrir cette vie intérieure, des temps de prière, des temps d'union avec cet hôte divin qui est présent en nous par la grâce. Passer du temps avec cet être qui nous aime d'une manière indicible, inexprimable, qui est en nous, qui attend que nous lui donnions notre cœur. Il est temps de conclure. Si nous désirons ne pas déchoir du rang auquel la grâce de Dieu nous a élevés, ayons sans cesse présent à l'esprit cette parole de l'Apocalypse. Gardez ce que vous possédez, de peur qu'un autre ne vous prenne votre couronne. Gardez ce que vous possédez, de peur qu'un autre ne prenne votre couronne. C'est pour avoir négligé ce conseil que le plus beau des anges, le premier homme, le peuple des dieux ont perdu leur couronne et l'ont vue transmise à d'autres. L'homme reçut la couronne de l'ange, les païens, celle des Juifs. Je vous le dis en vérité, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et se reposeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura les pleurs et les grincements de dents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.